des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit du monde où vous nous écoutez, attendez-vous à un moment de bonheur. On va parler de la langue française avec l'un de ses plus éminents connaisseurs, le linguiste Bernard Cerchiglini, professeur de linguistique à l'Université de Paris 7, actuellement recteur depuis 2007 de l'Agence universitaire de la francophonie. Il nous expliquera tout à l'heure le rôle de cette agence. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, eh bien nous avons aussi le plaisir de l'entendre dialoguer avec un autre spécialiste de la langue française, lexicologue et lexicographe, notre ami et collaborateur Jean Pruvot, professeur à l'Université de Cergy-Pontoise, où il organise la fameuse Journée des dictionnaires, on ne peut pas manquer de la signaler, et qui est aussi directeur éditorial des éditions Honoré Champion. Bonjour à tous les deux, monsieur le recteur, bonjour.
Bonjour madame.
Merci
bonjour,
d'être madame. Venu jusqu'à notre studio de Canal Académie. Et comme nous avons l'intention de retracer votre parcours, qui est un parcours chargé, nous allons certainement procéder avec différentes facettes, si vous le voulez bien. Peut-être on pourrait commencer, Jean, par demander à notre invité un petit peu ses origines.
Oui, je crois que la première des choses, souvent, c'est de retrouver le lieu des études. Et nous savons que c'est Lyon, mais en même temps, je crois savoir qu'il y a aussi des origines italiennes.
Italiennes, certainement, oui.
Nous serions très heureux d'avoir, pour quelqu'un qui représente magnifiquement la langue française, d'avoir cette aventure. Vous savez que mon maître était Bernard, et toujours
je
Bernard
me souviens
Quemada,
de l'époque où
espagnol.
Nous faisions de la politique linguistique avec Bernard Quemada et Bernard Cerchiglini.
Alors, vous êtes né à Lyon ?
Je suis né à Lyon, dans un quartier populaire, un quartier de l'immigration, immigration italienne, qui s'appelle la Guillotière. Mon grand-père était de Perugia. D'ailleurs, Cerchiglini, c'est un nom de Perugia. C'est un nom de cette région. Le latin Quercus, uniquement dans cette région, s'est dissimulé, comme disent les linguistes, en Cercus. Et donc, Cerchiglini, c'est le petit chêne, tout petit chêne.
Évidemment, on ne pouvait s'attendre qu'avec vous, vous alliez évidemment décortiquer votre nom, à commencer par celui-là, vous qui êtes évidemment l'historien de la langue française.
Alors derrière l'Italie, derrière Lyon, avec évidemment une bonne gastronomie aussi, je crois que vous y êtes sensible à la gastronomie.
Jean, vous savez, j'aime bien manger et on mange très bien à Lyon, mais Lyon aussi pour moi c'est la Renaissance, c'est l'imprimerie, c'est la grammaire. Et je n'oublie pas que le premier grammairien français à rédiger une grammaire du français en français s'appelait Louis Maigret. Il a été aussi un grand réformateur de l'orthographe et il signait ses livres Louis Maigret lyonnais. Voilà. Et j'aimerais bien faire comme lui, mais je n'ai pas le talent de Louis Maigret.
Je crois que si. Alors, c'est le lycée Ampère.
C'est une contrepétrie.
Voilà. Où vous donnez véritablement un feu d'artifice d'excellents résultats, ce qui vous conduit naturellement à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, d'où vous sortez docteur.
Et avec, agrégé d'abord, docteur
agrégé
quelques années
docteur
après.
Ensuite, bien sûr, oui. Avec donc vos premiers travaux qui peut-être sont à rappeler du côté de la naissance de la langue française en vérité, du côté de l'ancien français. Et je pense à la représentation du discours dans les textes narratifs du Moyen-Âge, qui était votre thèse d'état de linguistique, passée en 1979 à l'université d'Aix-Marseille.
Oui, à Aix-Marseille, parce que je voulais faire une thèse avec Jean Stefanini, qui était un grand maître, qui était un médiéviste très ouvert à la linguistique moderne. Et moi, je venais en fait plutôt de Chomsky. J'avais commencé par travailler en linguistique contemporaine, très formalisante, et je voulais appliquer les méthodes de, non pas de Chomsky d'ailleurs, d'un autre de mes maîtres, Antoine Cuglioli, toujours vivant, à l'ancien français. Et seul Jean Stefanini, à Aix-en-Provence, connaissait les deux. D'ailleurs, quand nous nous sommes rencontrés la première fois, il m'a dit « Mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas faire une thèse parisienne ?» Je n'ai pas bien compris l'expression. Je lui ai fait répéter. Il m'a dit « Mais vous allez soutenir Aix-en-Provence ?» Tant mieux, lui, je dis. J'ai soutenu Aix-en-Provence, qui m'a donné l'occasion de donner un pot de thèse là-haut sur la montagne Sainte-Victoire. C'était tout à fait agréable.
Alors, je crois que ce qui fait partie de votre rayonnement, c'est aussi ce côté international. On évoquait l'Italie, Lyon, Paris, Aix-Marseille, et puis vous voilà professeur invité à l'université de Berkeley. Donc là aussi, une expérience dans une autre langue, toujours une langue indo-européenne, mais en vérité, un talent. Et quand vous évoquiez tout à l'heure Chomsky, rappelez peut-être que le jeune étudiant que j'étais bénéficiait de votre traduction des questions de sémantique de Noam Chomsky, publiée au Seuil en 1975.
C'est mon premier travail, en effet, traduire Chomsky. C'était une très bonne formation. En particulier, je fais de la syntaxe. Et avec Chomsky, on a pris la syntaxe au sérieux. C'était la base de la linguistique, très formalisante, avec aussi une très grande écoute aux phénomènes syntaxiques. Et j'ai pu, grâce à cette formation, ensuite travailler sur la syntaxe de l'ancien français, qui est mon domaine. Et j'ai soutenu donc en juin 79. Et quelques temps après ma soutenance, j'ai été réveillé dans la nuit par un collègue américain qui avait entendu parler de moi, qui s'était trompé dans le décalage horaire. C'est pour ça qu'il m'a appelé, en me disant « Voudriez-vous venir enseigner à Berkeley ?» Et j'ai cru que c'était une plaisanterie, hein, et c'était pas une plaisanterie. Et 3 mois après, je partais pour Berkeley, c'était pour moi la première expérience d'université américaine, et ensuite j'ai enseigné presque tous les ans dans une université américaine, à Berkeley, à Hopkins, à Duke.
Voilà, c'est ce qui va faire de votre formation universitaire bientôt le maître de conférence, bientôt le professeur des universités, avec comme spécialité la littérature médiévale, mais la langue française, sa naissance, ça donnera d'ailleurs l'occasion d'un ouvrage en 91 qui s'appelle « La naissance du français », un que sais-je, donc republié d'ailleurs, et qui est vraiment de haute qualité, et qui là aussi pour l'étudiant, que je n'étais déjà plus, mais pour le jeune enseignant, était d'un grand prix. Entre les deux, vous aviez écrit d'ailleurs déjà dans un certain nombre de grandes maisons prestigieuses, aux éditions de Minuit, « La parole médiévale »,« Discours, syntaxe, texte », c'était en 81. Et en 80 aussi, à la bibliothèque médiévale, d'après le manuscrit de Modène, vous aviez établi le texte de Robert de Boron, le roman du Graal. Donc on a là véritablement...
Et là, je tiens à rendre hommage à la mémoire de Christian Bourgois, qui était l'éditeur de 10-18 et qui avait donné une collection bibliothèque médiévale à mon maître Paul Zumthor. Et j'ai proposé à Paul Zumthor de publier le premier roman de prose française. C'est bien le premier roman qu'on a écrit en prose. Et j'ai proposé naturellement une édition bilingue, page de gauche en ancien français, page de droite en français. Et Christian Bourgois m'a dit non, c'est de la prose, ça doit pouvoir se lire. Vous allez simplement traduire entre crochets dans le texte les mots difficiles pour permettre au lecteur d'accéder directement. C'était un pari incroyable. Il a tiré le livre à 15 000 exemplaires et il n'y en a plus. Il a été vendu et les gens ont lu tout de même ce qu'est le premier roman de prose française grâce au courage de Christian Bourgois.
Oui, c'est aussi ce qui transparaît dans votre carrière et dans votre œuvre, c'est qu'il y a à la fois l'érudition la plus absolue, l'universitaire, le chercheur, qui donne donc véritablement à la langue française de nouveaux outils et de nouvelles analyses. Et puis il y a celui qui donne, qui offre. Parfois, les travaux des chercheurs restent un petit peu confinés. Bon, c'est leur logique, hein. Et ils sont lus dans les universités, mais ils n'atteignent pas toujours le grand public. Mais vous allez donner l'histoire de la littérature française en 1984, chez Nathan. Et puis, on commence avec des ouvrages qui sont, en somme, des essais, et où l'écrivain rattrape l'universitaire, ou celui qui écrit avec une élégance, avec une éloquence aussi, que tous les linguistes honorent. Enfin, je crois que c'est à chaque fois le cri du cœur des linguistes.
À ma soutenance de thèse, quelqu'un, dont je dirais pas le nom, m'a dit « Vous écrivez trop bien pour un linguiste
». Je crois que c'était un paradoxe parce que les linguistes doivent très bien écrire.
Immodeste.
Et donc arrive l'accent du souvenir en 1995 aux éditions de Minuit et un peu avant, en 1989, l'éloge de la variante, histoire critique de la philologie, c'était aussi donc au Seuil. Et je sais que ça a été le cri du cœur des linguistes. Et moi, jeune étudiant, devenant petit à petit enseignant, je me dis « Mais non seulement on apprend, non seulement on est au vif de la langue, et en plus, on prend des leçons de style. » Alors ça, là, c'est l'ami qui va s'exprimer, puisque au fur et à mesure des années, le grand maître, nous sommes, je crois, devenus amis. Moi, je vous ai repéré d'abord à travers les ouvrages, et puis ensuite, j'étais inspecteur de l'éducation nationale.
Un des plus brillants, Jean.
Oh, je ne sais pas. En tout cas, j'avais le meilleur directeur des écoles qui soit, et j'ai ce souvenir particulier, c'était le grand amphithéâtre de la Sorbonne.
1200 inspecteurs primaires.
Nous étions 1200, assez hostiles à un moment donné, c'était pas mon cas, mais parce qu'il y avait...
Nous
c'était l'époque
chevènementiste. À l'époque, je dirigeais l'enseignement primaire et je venais à la demande du ministre de préparer les nouveaux programmes de l'école qui semblaient un peu traditionnels par rapport à ce qui avait été fait. Et nous avons réuni les 1200 inspecteurs pour les catéchiser.
C'est ça. Et alors, je me souviens de cela. Vous êtes, pas vous, mais le ministre est arrivé, puis vous étiez...
C'était quel ministre ?
C'était
Jean-Pierre
Chevènement.
Sur les programmes de l'école de 1985.
Un agacement, je sentais dans le... Et au bout de quelques paroles, et notamment quand vous avez évoqué les nouveaux moyens informatiques que vous alliez mettre à la disposition des inspecteurs d'éducation nationale, l'hostilité s'est transformée en applaudissements à tout rompre. J'ai encore ce souvenir.
Oui.
qui m'avait ému, parce que bon, moi j'étais un peu acquis à tout cela, mais je m'étais dit, voilà, il faut savoir expliquer, il faut savoir transmettre. Et ça, c'est peut-être, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est peut-être aussi la casquette que vous commenciez à porter magnifiquement, et qui s'est transformée ensuite avec panache dans toutes sortes de responsabilités, du côté de l'homme des institutions, et qui savait être proche de ceux qu'il dirigeait, ou en tout cas qu'il conseillait, et sentir leurs besoins, et les devancer en essayant de leur proposer un certain nombre de choses.
Nous étions tous au service de l'école de la République. Nous avions donc repris des nouveaux programmes. Nous souhaitions que les inspecteurs d'éducation nationale les mettent en pratique. Mais il fallait quand même convaincre. Hein. Et en effet, je me souviens de cette salle qui au début était un petit peu rétive.
Oui,
1200 personnes, on sent quand même.
Oui,
et puis
sent.
Nous les avons convaincus. Le ministre a été chaleureux. Mais je répète, Jean, vous étiez un des meilleurs inspecteurs primaires. D'ailleurs, l'ancien directeur de l'enseignement primaire vous parle. Votre carrière était toute tracée, c'est-à-dire que vous alliez devenir après directeur d'école normale, ce que vous avez fait, et ensuite inspecteur général de l'éducation. Et bêtement, vous avez pris une carrière universitaire.
Voilà. Alors, vous avez fait allusion tout à l'heure, Jean, à un ouvrage de Bernard Cerchilini qui s'appelle « L'accent du souvenir ». J'aimerais bien que vous nous disiez de quel souvenir s'agit-il.
La formule est de Ferdinand Bruno et elle qualifie l'accent circonflexe. J'ai écrit une histoire de l'accent circonflexe. Et je me souviens, quand j'ai quitté une autre fonction qui était déléguée générale en française, et à l'époque j'avais, en compagnie de l'Académie française, préparé une petite réforme de l'orthographe, la réforme des années 90-91, et quand j'ai quitté mes fonctions, je suis allé voir mon éditeur, qui était Jérôme Lindon. Et Jérôme Lindon m'a dit « Vous revenez maintenant à vos chères études, vous allez écrire ?» Je dis « Oui, je voudrais écrire. Et sur quoi voulez-vous écrire ?» Et un peu à la blague, je lui réponds « Écoutez, j'ai tellement eu de débats avec des gens qui étaient très conservateurs en matière d'orthographe et qui avaient un amour forcené et peut-être un peu déplacé parfois de l'accent circonflexe. J'ai tellement vécu ça que j'ai envie d'écrire une histoire de l'accent circonflexe. » Et Jérôme Lindon, patron des éditions de Minuit, qui a publié Beckett, Marguerite Duras, me dit « Je vous le prends. » Et il ne me restait plus qu'à l'écrire. Je l'ai écrit et d'ailleurs ce livre a eu un prix de l'Académie française, le prix Georges Dumézil, qui m'a beaucoup flatté. Et c'est donc une histoire de l'accent circonflexe. C'est un peu, pour moi, l'accent circonflexe, c'est un peu le Julien Sorel de la graphie. C'est un révolutionnaire qui finit par s'assagir. Enfin, Julien Sorel ne s'assagit pas, mais il y a quelque chose comme ça. L'accent circonflexe, au départ, c'est le symbole et l'arme des réformateurs au XVIe siècle. Ils ont l'impression que l'orthographe, je citais Louis Maigret tout à l'heure,
est
trop
complexe.
Il est né
au XVIe siècle, l'accent circonflexe.
Alors, il est grec,
il
bien
est
sûr,
grec.
Mais il est né en France au XVIe siècle, car les réformateurs, qui étaient souvent des imprimeurs et qui ne voyaient plus pourquoi on écrivait par exemple un S devant le T de forêt, et on prononçait forêt depuis déjà plusieurs siècles, sont allés chercher ce signe en grec qui traduisait la disparition d'une lettre pour le mettre à la place. Mais les conservateurs étaient contre, vraiment contre.
C'est normal pour des conservateurs,
oui,
de toute façon.
Et même quand l'Académie publie en 1694 son premier dictionnaire, elle refuse. Dans la préface, elle dit « Nous n'avons pas cru, l'Académie n'a pas cru devoir retenir quelques signes que certains imprimeurs ont cru déposer. »
Hein,
et un siècle plus tard.
Hein.
Et d'ailleurs, l'Académie, après, au XVIIIe siècle, grâce à l'abbé d'Olivet, est revenue et elle a adopté l'accent circonflexe. Alors, ce qui est drôle, c'est que cet accent qui, au départ, était l'accent des réformateurs, difficilement admis par l'Académie, est devenu maintenant au contraire le signe de la conservation, puisque quand nous avons, en accord avec le Conseil supérieur, avec l'Académie française, avec toutes les instances, quand nous avons dit que sur I et U, le circonflexe n'est plus vraiment nécessaire, il ne traduit plus rien, tous
ça
les conservateurs...
Ça a soulevé un
tollé. Un tollé. Et même cette querelle de l'orthographe s'est réduite à un des points, pour moi pas le plus important, qui était l'accent circonflexe. Donc le circonflexe, plutôt dire le Julien Sorel, c'est plutôt comme ces révolutionnaires devenus préfets d'Empire.
Oui.
Vous avez une certaine déception que cette réforme de l'orthographe n'ait pas pu aboutir à ce que vous aviez prévu ?
Non, parce qu'elle est en cours. L'Académie française, dans son dictionnaire actuel, la met en œuvre. Et donc, il faut laisser l'usage s'installer. Non, mon regret, maintenant, je peux le dire, quelques années après, c'est d'avoir voulu faire la dernière réforme du 19e siècle, c'est-à-dire s'être occupé du circonflexe, d'un accent grave sur événement. Non, tout ça, c'est secondaire. Il fallait au contraire s'occuper surtout de la terminologie, des mots à créer, et donc par exemple la soudure, l'usage du trait d'union, tout ce qui gêne quand on crée un mot nouveau. Or, il faut que le français soit la langue de la modernité, une langue technique, et que le français crée des mots. Il faut donc aider à la création. On aurait dû faire non pas la dernière réforme du 19e siècle, mais la première du 21e.
Merci, on va marquer une courte pause, on se retrouve dans un instant.
De quel déficit fondamental souffre l'Europe ? Démocratique, culturel, institutionnel, économique. Le point sur l'Europe en 2009 avec Thierry de Montbrial de l'Académie des sciences morales et politiques au lendemain de la tenue du G20 dans un contexte de récession mondiale. L'Europe de 2009, forces et faiblesses en temps de crise, Une émission éclairage à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Retour dans notre studio en compagnie de Bernard Cerchellini, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, et de Jean Pruvot qui, justement, dialogue avec lui. Jean, la parole est à vous.
Merci. Moi, je pense aux linguistes, à l'homme de lettres, aux poètes aussi. Nous verrons ça avec l'Oulipo. Et il y a toujours dans les titres quelque chose de prenant. Je pense notamment en 1996, après l'accent du souvenir, donc un an après, le roman de l'orthographe, déjà le titre est parlant, avant la faute au paradis des mots. Puis un peu plus tard, l'histoire de la langue française, là on est de nouveau dans un titre bien cadré, c'est Ferdinand Bruno, vous y reviendrez, 1945-2000, avec Gérald Antoine aussi comme directeur.
Alors peut-être un mot surtout sur... Gérald Antoine.
Oui, Gérald Antoine qui est académicien. Donc
mais naturellement, voilà. Et pour qui j'ai la plus grande estime, la plus grande amitié. Et c'est quelqu'un qui a eu un parcours que je peux modestement imiter. C'est un très grand grammairien, plus grand grammairien que moi. Et ça a été un responsable, un grand poète et aussi un homme ce qui a servi la République. La grande loi sur l'enseignement supérieur des temps de Général de Gaulle, c'est Antoine qui l'a faite. Il ne faut pas l'oublier.
Il y a un autre point commun, c'est d'ailleurs le trésor de la langue française. Puisque fondateur, vous avez dirigé l'Institut national de la langue française, dont l'œuvre majeure était le TLF, qui avait commencé Paul Imms, poursuivi Bernard Quémada, et que vous aviez mis sur Internet gratuitement en 2000.
J'en suis assez content, parce qu'il a fallu convaincre la direction du CNRS que l'on devait mettre ce dictionnaire gratuitement. J'ai pu convaincre, et ce dictionnaire est d'accès libre et gratuit. C'est une arme merveilleuse pour la langue française et la francophonie. C'est un grand dictionnaire.
Permettez, Jean, juste dire que nous avons une émission sur Canal Académie avec Gérald Antoine sur l'histoire de la langue française, bien sûr, et que nous avons aussi une émission qui rend hommage à Paul Imms à cause du trésor de la langue française. Donc, c'était juste une parenthèse.
Vous avez raison, il faut le rappeler.
Alors, d'un recteur à l'autre, parce que Gérald Antoine était aussi recteur, donc on va peut-être évoquer le haut responsable institutionnel que vous êtes, que vous avez été tout au long, je dirais, des 30 dernières années, à peu près, au service de la France, de la francophonie, de la langue française et internationale, en définitive. Alors, on évoquait tout à l'heure le directeur des écoles au ministère de l'Éducation nationale. Ça, c'était entre 85 et 87.
Oui, vous savez, je suis schizophrène par alternance. Donc, il y a des phases de ma vie durant lesquelles je suis universitaire, donc oui. J'enseigne, j'écris, fais des conférences, et puis des phases durant lesquelles je suis, disons, aux affaires.
Oui.
Et j'ai eu la chance de faire une carrière universitaire assez rapide, puisque je me suis retrouvé professeur à 34 ans. Et donc, la carrière était achevée. Il ne restait plus qu'à franchir les degrés dans le professorat, mais ça, c'est secondaire. Et donc, je me disais, mais que vais-je faire maintenant? Et on m'a proposé,
ça a été bien rempli.
À 37 ans, ce qui était, là aussi, c'est le côté stendhalien de Jean-Pierre Chevènement. Il a nommé à la tête de l'enseignement primaire, qui est une des plus grosses directions ministérielles, 300 personnes à la centrale, et puis les écoles normales, les inspecteurs primaires, quelqu'un de, non seulement qui avait 37 ans, mais qui n'avait pas fait l'ENA, qui n'avait pas d'expérience administrative, qui savait tout juste la différence entre une loi, un décret, une circulaire et un arrêté.
Oh, dans les mots, vous saviez bien tout ça, sûrement.
Je savais au moins la définition. Et puis, ouais, bah, je me suis jeté dans le bain. Mais c'était une très belle époque parce que nous étions tous des jeunes directeurs,
oui,
très gais, nous amusions beaucoup. Les huissiers au ministère n'avaient jamais vu des directeurs si jeunes et si riants. Et c'était une très belle époque, épuisante, parce que diriger l'enseignement primaire, surtout auprès de Jean-Pierre Chevènement, il faut se lever tôt et se coucher tard.
Oui, on s'en souvient. D'un énorme travail. Alors après, de 89 à 93, vous étiez délégué général à la langue française auprès du Premier ministre, qui était Michel Rocard. Là, évidemment, l'orthographe était...
Ça, c'est la DGLF.
Voilà. La DGLF, c'était à l'époque au service du Premier ministre, et Michel Rocard m'avait pris auprès de lui. Le Premier ministre avait changé les structures. Il avait créé un Conseil supérieur de la langue française, qu'il présidait, mais dont le vice-président actif était notre maître et ami à tous les deux, Bernard Quémada. Et ce conseil avait un bras armé, qui était la délégation générale à la langue française, un service du Premier ministre, dont on m'a confié la responsabilité pendant un mandat de 4 ans. Et c'est au cours de cette période qu'en plein accord avec l'Académie française, le Conseil belge, le Conseil suisse, nous avons proposé des rectifications de l'orthographe. Ce n'est pas une réforme, ce sont des rectifications que nous avons faites qui touchent environ 400 mots.
Et qui sont en train de passer dans les dictionnaires, on le voit. Hein, on le...
De fait.
J'ai un
de
étudiant là, qui a travaillé sur 10 ans du petit Larousse, 10 ans du petit Robert, et on voit une évolution certaine.
Et est-ce à cette époque qu'ont été créées ces fameuses commissions de terminologie qui sont donc dans chaque ministère pour les mots nouveaux?
Non, elles sont plus anciennes. Elles datent de l'époque, de la première époque de la politique linguistique. Je crois me souvenir que que le décret qui crée les premières commissions date de 72, ça doit être l'époque du Premier ministre Chaban-Delmas, je crois. Et donc, elles ont perduré, mais dans ce dispositif dont je parle, nous les avons renforcées. Et donc, je présidais moi-même à l'époque la commission générale. Nous avons créé beaucoup de commissions. Mon rôle a été aussi d'en créer, de les animer, et nous avons publié beaucoup de termes officiels. Il y a eu un démarrage. C'est l'époque aussi où nous avons travaillé davantage avec les Québécois en pleine relation, et les choses ont bougé.
Ce qui fait qu'au sein de cette délégation générale à la langue française, qui ensuite est devenue aussi aux langues de France, vous avez été vice-président à un moment donné du Conseil supérieur de langue française.
J'ai succédé 99. À Bernard Quémada.
Voilà.
Quel grand honneur.
C'est une belle filiation. 1999-2003, délégué général à la langue française cette fois-ci et aux langues de
oui,
France.
Oui, parce qu'entre-temps, ce n'était plus... décidément. Ce n'était plus un service du Premier ministre, la délégation, car il y a une tendance en France...
communication et culture maintenant.
C'est ça, oui. Voilà. Il y a une tendance en France à faire passer les services du Premier ministre dans les ministères, ce qui est une bonne tendance. Donc, entre-temps, ce service était passé au ministère de la Culture et on m'a proposé le poste, mais j'ai accepté une condition, c'est que à la fois l'intitulé et l'émission soient changés afin que la France ait une politique linguistique complète, c'est-à-dire d'une part ayant pour objet la langue nationale, la langue de la République, la grande langue de culture, mais aussi les autres langues parlées en France, réunir tout ce patrimoine. Et nous avons créé une délégation générale à la langue de France, à la langue française et aux langues de France.
Qui 75 langues de France.
Alors, on m'avait demandé entre-temps de faire un rapport, car entre-temps, la France avait signé la Charte européenne de protection des langues régionales et minoritaires. Et cette charte, cette signature doit s'accompagner d'un instrument, comme on dit, qui fait la liste des langues que la France, que le pays reconnaît.
Vous aviez fait un rapport alors
oui,
là-dessus.
Le pays qui avait reconnu le plus de langues jusqu'alors, c'était l'Allemagne, avec 5 langues. Et quand j'ai rendu mon rapport au gouvernement, les ministres ont levé les sourcils car j'étais arrivé à 75 langues.
Oui, j'en ris parce que je vois leur tête, effectivement.
Oui, et je me rappelle le ministre de l'enseignement, Claude Allègre, m'avait dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et je lui avais répondu « Mais monsieur le ministre, vous oubliez, il ne faut pas dire ça à un ministre, mais vous oubliez que la France, c'est aussi la Nouvelle-Calédonie, par exemple, et qui a en Nouvelle-Calédonie, 29 langues. Donc je vous apporte dans ce rapport aussi une Europe,
bien
29
sûr,
langues.
Bien
et
sûr.
Puis si on prend les langues, la majorité sont outre-mer. Mais c'est important de rappeler que les langues amérindiennes de Guyane sont des langues de France. Comme par ailleurs le yiddish, l'arménien, l'occitan, le flamand.
Bien sûr. Mais j'ai cru comprendre que pour un linguiste, finalement, mais peut-être vous allez rectifier mon erreur, à partir du moment où un parler est parlé, il n'y a pas de patois ou de langue, tout ça, ça ne fait pas de différence.
Non, le mot patois est péjoratif.
Oui.
Les
donc
linguistes l'utilisent.
Vous le supprimez, vous ne l'utilisez pas.
Non, non. Et donc j'ai créé l'expression langue de France, avec difficulté, car vous savez, quand on crée une structure ministérielle, il faut l'avis du Conseil d'État. Mais c'est un avis, simplement. Cet avis a été négatif. Et le rapporteur du Conseil d'État a dit « Je connais Gaz de France, je connais Électricité de France, je ne connais pas Langue de France ». Nous avons passé outre. Et l'expression pour dire que ce sont des langues de la France. L'idée était de refuser la territorialisation des langues. Ce que nous avions dans la tête, c'est le cas de le dire, c'est que la langue, c'est un bien immatériel de la nation. Il y a une notion de patrimoine en France depuis l'abbé Grégoire, depuis Prosper Mérimée, qui sont les chapelles, les châteaux. Mais il y a aussi un patrimoine immatériel et en partie matériel quand elles sont écrites, qui sont toutes ces langues. Or, la France est le pays d'Europe qui a le plus beau et le plus vaste patrimoine. Et nous voulions aussi faire comprendre qu'on peut être, et c'est notre cas ici, un bon républicain, ami de la langue française, langue de la République, langue du civisme, et aussi être ami de toutes ces langues que l'on parle sans qu'elles soient ennemies de la République.
Oui, c'est ça. Quand il s'agit de la langue française et les langues de France... La langue française étant une des langues de France.
Mais elle a un statut différent.
Il n'y a pas forcément d'hostilité, comme parfois on veut le mettre en avant, avec des langues comme l'anglais. Et c'est ce qui fait aussi d'ailleurs votre caractéristique, c'est qu'après avoir enseigné à Berkeley, vous allez de 2004 à 2007 être donc professeur en Louisiane, à l'université de Baton Rouge, et directeur du centre d'études francophones, il va de soi, avant de devenir, non, c'est dans quasiment un petit peu avant, vous étiez président de l'Observatoire national de la lecture. Donc on a là toute une série de liens, de trait d'union, et ensuite il y aura le recteur de la UF sur lequel nous allons...
Le lien c'est la langue, mais la langue dans sa diversité. Je suis un apôtre du plurilinguisme et de la diversité. Alors, en France, la langue française est la langue de France. C'est important de parler plusieurs langues. C'est important que des citoyens français parlent aussi occitan ou alsacien, bien sûr. Il est important dans la francophonie de respecter cette diversité. J'étais très content pendant trois ans et demi d'être cordien. Je parlais le français de Louisiane avec mes amis de Cardien. C'est aussi du français. Et il a même statut, même dignité que le français du Sénégal ou de Paris. C'est important de rappeler le plurilinguisme. l'Europe, c'est un bouquet de langues. Je crois qu'il faut se méfier de l'insularité des langues. Les langues échangent, dialoguent, et le cerveau humain est fait pour parler toutes les langues. Les langues ne sont pas étanches, elles échangent. Et c'est très bien d'avoir aussi dans son oreille, et j'ai dans mon oreille, le français parlé en Louisiane, les mots et l'accent. C'est une richesse, ce n'est pas une déperdition. On a longtemps pensé que le plurilinguisme était une déperdition, que parler les langues étrangères était une perte, comme s'il y avait peu de place dans le cerveau. Il y a beaucoup de place dans le cerveau et beaucoup de place dans la culture humaine. Les langues, c'est ce que l'homme a inventé de mieux.
Alors c'est aussi ce qui explique la responsabilité qui vous a été demandée en tant que recteur de l'agence universitaire de la francophonie, l'AUF, qui dans le fond a succédé à ce qu'on appelait l'OPELF-UREF, et qui est un énorme réseau mondial d'établissements d'enseignement supérieur, de la recherche francophone, avec 728 membres présents dans 88 pays, et installés justement non pas en Acadie ni en Louisiane, mais à Montréal et à Paris aussi.
Le siège est à Montréal et mes bureaux sont principalement à Paris, place de la Sorbonne. Mais Jean, vous avez bien fait de rappeler que nous avons succédé à l'OPELF. Pourquoi ? Parce que dans l'OPELF, ce qui m'intéresse, c'est le P. Quand en septembre 1961, et nous allons fêter bientôt le 50e anniversaire de notre agence, quelques universitaires, dont Gérald Antoine, se sont réunis. Ils étaient français, québécois, belges, et ils risquaient de créer une association qui eût été un club d'université vraiment francophone. Heureusement, il y avait parmi eux Mohamed El Fassi, recteur de Rabat, qui leur a dit « Mes chers collègues, moi, mon université, elle est partiellement de langue française. Vous devez admettre. » Et c'est lui qui a imposé le P.
Le P, c'est partiellement.
C'est association des universités partiellement ou entièrement de langue française, OPELF. Ce P est un coup de génie, car nous avons pu faire adhérer des universités qui ont le français partiellement comme outil. Et voilà pourquoi nous avons maintenant un réseau de 728 universités. C'est sans doute l'association universitaire au monde la plus importante. Nous avons naturellement les universités de tous les pays historiquement et strictement francophones, mais les 13 plus grandes universités du Brésil, l'université de Téhéran, l'université de Lima, 45 universités algériennes. L'Algérie n'est pas membre de la francophonie parce qu'elle a un passé douloureux avec la France. Pas de problème pour nous. Nous avons donc un réseau immense et nous bâtissons une francophonie universitaire plus vaste que la francophonie politique, et nous bâtissons également une communauté scientifique de langue française pour pratiquer des échanges, une solidarité et aussi une aide pour les universités des pays moins développés.
C'est-à-dire que l'agence aide à la formation des professeurs et des élèves, entretient des échanges entre les universités. Concrètement,
historiquement, l'agence est une association, je viens de le dire. Mais depuis une dizaine d'années, c'est aussi un opérateur de la francophonie. Comme TV5 est l'opérateur pour l'enseignement supérieur, l'AUF, c'est l'opérateur. Donc nous avons un budget, qui est un beau budget, 40 millions d'euros par an, abondé par les pays, principalement par la France, du personnel, 452 employés, et des locaux. Des locaux à travers le monde entier, 9 bureaux régionaux, des antennes, des campus numériques. Il y a 63 endroits dans le monde où quelqu'un parle au nom de l'agence universitaire. Mais cet opérateur, il est au service de l'association. Ce que nous faisons répond toujours aux besoins de nos membres et formalisé avec eux, mis en œuvre et évalué. Un exemple, les recteurs d'Afrique nous ont dit qu'il serait nécessaire qu'ils reçoivent une formation, car ils sont nommés recteurs et ont à gérer un établissement. Nous créons à Yaoundé en ce moment un institut de gouvernance académique pour former les recteurs, les inspecteurs généraux, les agents comptables, pour faire des remarques et ensemble, collectives, sur la façon de gérer une université, la représentation des étudiants. Cet institut, nous le créons grâce à nos moyens. D'ailleurs, nous le créons avec l'Association des universités du Commonwealth. Nous n'avons rien contre l'anglais, à la demande des recteurs. Donc nous sommes une force de frappe qui se met en œuvre à l'écoute des universités conformément à leurs besoins. Alors il y a des bourses pour les étudiants, des bourses aussi pour les jeunes universitaires. Dans nombreux pays, par exemple au Vietnam, 17% seulement des universitaires ont une thèse parce qu'il a fallu ouvrir des postes. Donc nous donnons des bourses pour que ces jeunes collègues aillent terminer leur thèse, la soutenir et reviennent. Nous finançons des colloques scientifiques. Il s'agit d'aider les universités des pays en développement à intégrer la communauté mondiale avec des standards comparables.
Et le recteur que vous êtes se rend dans ces 780 lieux universitaires ? Vous voyagez sans arrêt, si je comprends bien.
Sans arrêt, j'avoue que j'ai une dépense de carbone qui m'effraie. J'ai visité bien sûr les 9 bureaux régionaux et les antennes. Pratiquement, je suis dans un avion une semaine sur deux. C'est vaste, la francophonie.
C'est très vaste.
Mais c'est merveilleux de rencontrer des recteurs, des collègues du monde entier, de discuter avec eux en langue française. J'étais avant-hier à Tallinn. J'ai été reçu par le recteur de l'université de Tallinn, qui m'a reçu dans un français impeccable, accompagné de son vice-recteur, de son collègue, qui m'a dit qu'il voulait absolument que l'Université de Tallinn devienne membre de l'agence. Je lui ai dit, mais nous recevons volontiers votre adhésion, nous avons parlé. Et à la fin, je lui ai dit, mais monsieur le recteur, votre français est impeccable, vous devez être professeur de français. Il m'a dit, non, pas du tout, moi je suis spécialiste de japonais.
Je crois que c'est ce qui est souvent oublié, c'est qu'il y a les universités françaises, et puis il y a cet énorme réseau que vous pilotez, que vous dirigez, que vous animez, enfin, que vous faites rayonner, avec ces campus numériques francophones, avec cette mobilité des étudiants, mobilité des chercheurs aussi. Et c'est ça qui fait rayonner la francophonie et qui, je crois, est parfois un petit peu oublié en France, où on a tendance à ne pas regarder au-delà. Et c'est quelque chose d'évidemment important.
Les Français considèrent que les francophones, ce sont les autres.
Oui, c'est ça.
Alors, même si la France finance activement la francophonie, vous savez, l'agence universitaire, elle est universitaire, mais elle n'a pas la tête dans les nuages. C'est très concret. La part du fonctionnement est minime, moins de 20%. Tous nos crédits passent dans les bourses, dans les campus numériques. Comprenez, quand nous ouvrons à Bujumbura une salle d'ordinateurs équipée de batteries d'accumulateurs, climatisée, avec connexion à Internet, tout le monde vient se connecter. De l'étudiant au recteur, base de données, publication en ligne, courrier électronique. Pourquoi les étudiants et les collègues de Bujumbura n'auraient-ils pas le droit de travailler comme nous, c'est-à-dire devant un écran et de dialoguer avec le monde entier? Nous leur offrons cela.
Je crois qu'on a compris combien Bernard Cerchiglini était un homme d'action. C'est un linguiste, c'est aussi un rêveur, et c'est un homme d'action, donc ça fait beaucoup de choses. On va peut-être passer du coup à un autre volet, qui est du côté de l'homme de lettres, de l'homme des médias, du professeur de TV5 au service de la langue française. Et moi, ce qui me surprend toujours et qui m'émerveille, c'est quand les linguistes s'intéressent aux mots autrement que du côté de la morphologie, de la sémantique, mais du côté de leur rayonnement, de leur radiation poétique. Et je pense notamment donc à Lou Lipo, puisque vous êtes membre de l'ouvroir de littérature potentielle, c'est un joli mot valise, qui s'est transformé en Oulipo. L'Oulipo, bon, qui a été créé donc il y a quelques années, hein, et qui se définit d'abord parce qu'il n'est pas, dit-il, ce n'est pas un mouvement littéraire, ce n'est pas un séminaire scientifique, ce n'est pas la littérature aléatoire, mais c'est quand même beaucoup de choses de ce type.
C'est un service
public.
Et vous
allez nous en parler, voilà.
Alors écoutez, j'ai une difficulté à en parler parce que c'est ce dont je suis le plus fier finalement. C'est mon jardin secret, c'est ma franc-maçonnerie à moi, sont mes amis très chers. Ils ont bien voulu m'élire à l'Oulipo, vous savez, c'est très difficile d'être élu à l'Oulipo.
En 1995, il ne faut pas être candidat.
Il ne faut pas être candidat, on n'élit pas un membre par an. Il y a eu, je crois, depuis la création de l'Oulipo, et plus de 40 ans, 40 membres. Et tout le monde est membre. Certains, et nous dînons ensemble une fois par mois, certains membres sont excusés au motif à peine valable qu'ils sont morts, mais nous convoquons à tous nos dîners Georges Perec, naturellement Raymond Queneau, et c'est le moment d'un peu moins de grande joie parce que nous disons des textes, nous écrivons des textes, nous parlons de contraintes, nous échangeons, nous dînons, nous buvons un peu, bien sûr, et c'est pour moi l'épanouissement de la langue, et tout ça avec beaucoup d'humour. L'Oulipo, c'est très sérieux, je vous ai dit, c'est un service public pour moi. Nous n'aimons pas l'inspiration, nous n'aimons pas le surréalisme et l'écriture automatique, nous aimons la contrainte, parce que nous pensons que la contrainte, elle est explicite, que tout le monde peut se l'approprier et que tout le monde peut écrire. C'est donc l'Oulipo est un grand service public républicain de la langue. Il ne faut pas être, bien sûr, que Queneau, Perec et tous les membres de l'Oulipo ont tous du génie par ailleurs, mais tout d'abord, il faut prendre les choses très au sérieux. Écrire, c'est suivre des règles. Paul Valéry l'avait dit depuis longtemps, bien sûr. Et nous avons inventé à l'Oulipo les pasticheurs par anticipation. Et donc, nous considérons que les grands rhétoriqueurs, Victor Hugo, sont des oulipiens avant la lettre.
Si je puis me permettre aussi une réflexion personnelle sur les dictionnaires, qui sont entre les mains des lexicographes, gens très sérieux, des historiens de la langue, gens aussi très sérieux. Je pense à notre ami commun, Giovanni Dottoli, qui est aussi poète. Et puis tout à l'heure, nous évoquions le recteur Antoine, qui est aussi poète. Et je me suis souvent dit que c'était à travers la connaissance de la langue, c'est nécessaire, la connaissance de son histoire, de la morphologie de nos mots, et aussi le sentiment poétique et le fait de faire des poèmes, qu'on percevait le mieux les mots, parce que les hommes de lettres sont là, les femmes de lettres sont là justement pour aller plus loin que le mot, en percevoir toutes les résonances. Et c'est ce qui fait peut-être les grands linguistes et aussi les grands hommes d'action.
Alors, c'est pour ça que j'aime tant fréquenter les écrivains. J'ai beaucoup d'écrivains parmi mes amis et j'aime tant parler avec eux et de voir l'usage qu'ils font de la langue. C'est pour un linguiste...
Quelques-uns, quelques noms.
Oh, bah écoutez, par exemple, je suis très lié à Pierre Guyotat, dont j'aime beaucoup le dernier livre qui vient de paraître, qui est une merveille. Je suis lié à Jacques Roubaud, à Michel Chailloux, ce sont des écrivains admirables, que les autres me pardonnent, tous les oulipiens. Et c'est une merveille de voir comment... Moi, j'aime beaucoup me promener dans Paris avec Pierre Guyotat et de le voir regarder le monde et de parler du monde. C'est une très belle langue Et c'est pour moi, qui suis simplement un savant, un grand bonheur.
Du côté des jeux de mots, l'Oulipo publie alors des beaux, des BO. Et j'ai
Bibliothèque
lu,
Oulipienne.
Bibliothèque Oulipienne.
Nous publions à compte d'auteur et à tirage limité nos œuvres. Nos œuvres, donc c'est une. Maintenant, il y en a plusieurs centaines. Elles sont très peu vendues. C'est envoyé à nos amis. C'est la Bibliothèque Oulipienne.
En 2008, le BO numéro 166 avec les saillies du dragon. Et je lis le lapsus computatri.
Jean, vous savez tout. Oui, je me suis permis de faire une Bibliothèque Oulipienne parce que j'utilisais un logiciel de dictée. De dictée pour dicter mon ordinateur. Et ce logiciel faisait des erreurs délicieuses. Donc j'en ai fait une liste que j'ai commentée. Et j'ai appelé ça les saillies du dragon car le logiciel s'appelle. Dragon.
Voilà,
et depuis, je fais une collection d'erreurs de mon logiciel.
On marque de nouveau une courte pause et on se retrouve dans un instant.
Brigitte Engerer est une pianiste adorée en France, vénérée à l'étranger. Son élan naturel la porte vers les pages romantiques du clavier, mais elle se sent bien aussi devant une partition de musique contemporaine. La pianiste nous a reçus chez elle, à Paris, pour un entretien personnel sur ses années en Russie, sur sa peur des studios d'enregistrement et son amour des œuvres vocales. Cet entretien est en libre écoute et téléchargement sur canalacademy.com.
Nous revenons dans notre studio en compagnie de Bernard Cerchellini. Peut-être alors, on pourrait aussi parler de TV5.
Voilà,
merci professeur, c'est tout de même le grand succès de Bernard Cerchellini. Alors il paraît qu'en Afrique, on vous demande des autographes.
Au Sénégal, l'émission passe tous les soirs avant le journal télévisé, donc tout le monde me connaît et on me demande des autographes. Le douanier, le portier de l'hôtel, le ministre, les collègues, tout le monde me regarde, c'est
alors,
très curieux.
Alors expliquez-nous un petit peu cette émission, combien de fois enregistrez-vous ? Parce qu'il faut qu'on sache un petit peu, très souvent, pas très souvent,
alors,
en direct, pas
cette émission,
en direct.
L'idée n'est pas de moi, elle est de Jean-Jacques Ayagon qui dirigeait à l'époque TV5 et qui voulait qu'il y eut une émission de langue française. C'est lui qui m'a proposé de faire cette émission, je me suis récrié car je n'ai jamais fait de télévision, j'étais professeur en Louisiane, mais il a passé outre et donc j'ai enregistré des pilotes, comme on dit, une dizaine de pilotes, ils ont plu et depuis j'ai enregistré. Alors quand j'étais
combien
en Louisiane...
Combien de mots ? Alors on en est à combien ?
J'en ai enregistré 524,
524
pour l'instant, mais vous savez, je suis assez occupé comme recteur, donc je dois voler pour les préparer quelques dimanches où je ne suis pas dans un avion, où je ne suis pas épuisé, où je ne vole pas à ma propre vie personnelle. Et donc j'arrive à enregistrer environ une centaine d'émissions par an.
Ce sont des tout petits modules qui ne durent pas longtemps, mais qui pourtant nécessitent une grande préparation.
Bien sûr,
d'autant
parce que
plus.
Je les prépare, je les écris et surtout je les apprends.
Vous apprenez par cœur ?
J'ai refusé d'utiliser un prompteur. D'abord parce que j'ignorais qu'il y eut un prompteur, parce que j'ai fait rire beaucoup les gens de TV5. Ayant pris l'habitude, je continue. Donc j'en enregistre 15 par jour, 3 jours de suite, 45. Et ensuite, je
donc
rentre
vous
me coucher.
Vous en apprenez 45 d'affilée.
Oui, oui.
Et ça a donné lieu à un ouvrage en 2008 chez Bayard Culture qui s'appelle Merci Professeur.
Oui, c'est un volume qui reprend les 300 premières. Donc maintenant, je suis en train de préparer le deuxième volume, bah, si Bayard
savez,
est d'accord.
Moi, j'aime l'ordre alphabétique, alors je suis allé les consulter dans l'ordre alphabétique. Donc ça commence par à bâton rompu, bâton rouge, n'est peut-être pas loin. Astor, à U et Adia, à la soupe, à pied d'œuvre, à pied en voiture, à tire-larigot, à bas. Abîmé avec accent circonflexe ou sans, etc. Kaby et accent circonflexe. Donc on est là dans quelque chose.
Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a maintenant, l'émission existe depuis 4 ans, il y a 2 ans, l'émission est visible sur TV5 et sur le site de TV5.
Oui, excellent.
Excellent site de TV5, doté de beaucoup d'outils d'apprentissage de la langue française, mais l'émission est un de ces outils. On peut voir l'émission. Et nous avons mis un bouton. Poser des questions au professeur pour voir si les téléspectateurs allaient. C'est 100 par jour à peu près.
Vous
c'est
recevez...
inouï. J'ai de quoi faire des émissions pendant 3 siècles.
Ça me fait penser...
Il faudrait que vous soyez immortel.
Vous savez, je crois que c'est le cas des linguistes. Il y a quelques jours, je recevais un coup de fil d'un ami commun, qui est Charles Muller.
Et
qui
centenaire.
Est, voilà, qui a 100 ans. Donc je l'avais au bout du fil. Au bout d'un moment, il m'a lâché cette expression extraordinaire. Quand j'ai pris ma retraite, il y a 35 ans. Et donc, je me suis dit, l'avenir des linguistes est beau. Et je pense que le professeur est bien parti aussi.
La philosophie française.
Et son site, c'était orthonette.
À combien d'auditeurs votre petite rubrique quotidienne sur TV5?
Des millions.
Des millions,
ah,
c'est fantastique.
Écoutez,
c'est
où que j'aille dans le monde, je rencontre des gens qui m'ont vu. Vous savez, je me promenais à la bibliothèque de l'université de Tlemcen et des étudiants me disent « Oh, le professeur !» Au Japon, on m'a demandé des autographes un
donc,
peu partout.
On vous appelle comme ça maintenant, le professeur.
Le professeur. Alors, du coup, j'en profite pour dire, vous savez, mais je fais autre chose. Je dirige l'agence universitaire de la francophonie, agence qui, et puis je parle longuement de l'agence. Vous savez, TV5 est une admirable chaîne de télévision et elle a la plus grande audience après CNN.
Mais en France, on a l'impression qu'on l'écoute peu, non ? Je me trompe ?
D'abord, mon amie Marie-Christine Saragosse, qui dirige brillamment cette télévision, a beaucoup de mal pour être diffusée en France. Souvent, elle me dit, mais c'est incroyable, les Français considèrent que les francophones, c'est ailleurs. Or, c'est une très, très grande chaîne et qui permet d'entendre la francophonie. Car on y entend, outre le journal de TV5, le journal français, belge, québécois, des films africains. C'est la diversité même du français dans sa richesse et dans son respect de l'autre. Les nouvelles du journal télévisé de TV5 sont des nouvelles qui s'ouvrent au monde, qui écoutent les points de vue et qui les comparent. Ce n'est pas la voix d'un pays, c'est la voix de la francophonie, c'est-à-dire une alliance humaniste de pays dans leur diversité, leur richesse.
Donc on va dire à nos auditeurs, quand vous aurez fini d'écouter Canal Académie, d'ailleurs sur laquelle nous avons fait d'ailleurs une émission sur TV5, elle est diffusée cette semaine, eh bien écoutez TV5 et monsieur le professeur.
Alors, on pourrait peut-être s'acheminer vers encore un autre, Bernard Cerchiglini, donc au-delà du chercheur, de l'universitaire, au-delà de l'homme des institutions avec une grande générosité et beaucoup de créativité, au-delà du poète ou en tout cas de l'homme de lettres, Lou Lipo, et en même temps de l'homme des médias avec Merci Professeur. Moi j'aimerais évoquer une personnalité hors norme. Et là alors peut-être évoquer des souvenirs personnels. Hein. C'est l'étudiant qui est très heureux de pouvoir lire des ouvrages, qui peut écrire. Et on répond. C'est ensuite l'inspecteur d'éducation nationale qui est séduit et qui est convaincu. Et puis après, celui qui essaie de créer quelque chose avec ses dictionnaires. Et je me souviens d'un formidable coup de main pour créer un laboratoire CNRS à l'université de Cergy. C'est encore Bernard Cerchiglini qui était là pour m'épauler. Et puis il y a autre chose alors qui traverse tout cela. C'est une forme, je trouve que c'est le propre des grands hommes qu'on trouve à l'académie, qu'on trouve dans ces grandes institutions. C'est une forme de générosité qui se traduit par la disponibilité alors même que l'homme est pris entre deux avions, entre deux pays, avec un travail, on l'a compris, assez énorme, si on peut utiliser cette formule. Et là, je vois en tant qu'éditeur maintenant chez Honoré Champion, je souhaite pour Champion les mots là, qui va sortir une préface, je suis pris dans l'urgence, je te le demande, je vous le demande, excusez-moi. Et Bernard Cerchiglini, qui a peu de temps, fait une très belle préface. Il fait de très belles préfaces pour d'autres ouvrages. Je pense à l'ouvrage de Claudine Bavou sur le français dans les dictionnaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement séduisant. C'est la compétence qui, par ailleurs, est généreuse et disponible. Alors ça, c'est l'homme aussi.
Jean, vous êtes bien aimable, mais vous en êtes un autre. Vous savez qu'il importe de s'organiser. Il importe aussi de savoir déléguer. J'ai d'excellents collaborateurs à l'agence universitaire qui ont ma confiance et il importe de se rendre disponible.
Et de soutenir des jeunes et des gens qui ont des projets aussi.
Bien
ça
sûr, vous savez, on m'a donné ma chance. J'ai rappelé de quel milieu je viens. On m'a donné ma chance. Je n'ai cessé depuis de la faire circuler.
C'est une très jolie conclusion.
Alors, il y en a peut-être une dernière. Je connais trois personnes qui jouent de la guitare. Alors, moi, j'en joue, mais très mal.
Moi aussi.
Et puis, l'autre est Bernard Quemada.
Eh bien sûr.
Alors, vous allez nous faire un petit orchestre bientôt.
Il faut imaginer Bernard Quemada faisant danser Bernard Potier dans un colloque il y a une trentaine d'années.
Bernard Potier, notre académicien.
Dansant le flamenco merveilleusement.
Oui, parce que Bernard Potier a suivi une école de flamenco. Et Bernard Quemada, qui est notre maître à tous, est un grand maître. Il joue très bien de la guitare. Nous sommes ses élèves, nous grattons.
Linguiste
quelques...
et guitare, ça va ensemble finalement.
Oh, le dernier mot, c'est harmonie, je crois.
Ah, voilà,
harmonie de la langue française, harmonie.
Et accord.
Et accord.
Merci de ces très jolis derniers mots. Merci à vous, monsieur le recteur.
Merci
Jean Pruvot de nous avoir accompagnés. À bientôt pour une autre émission sur la langue française, j'espère.
Avec plaisir.